Le bon gros géant.
Sophie ne parvenait pas à s'endormir. Un rayon de lune s'était faufilé entre les rideaux et projetait sur son oreiller une lueur oblique. Dans le dortoir, les autres enfants dormaient depuis des heures. Sophie ferma les yeux et resta immobile. Elle essaya très fort de s'assoupir. C'était peine perdue. Le rayon de lune tranchait l'obscurité comme une lame d'argent et tombait droit sur son visage. Il régnait dans tout le bâtiment un silence absolu. Nulle part on n'entendait le moindre bruit et jamais Sophie n'avait connu un tel silence. C'était peut-être là, pensa-t-elle, ce qu'on appelle l'heure des ombres. Un jour, quelqu'un lui avait dit que l'heure des ombres vient au milieu de la nuit. C'est un moment très particulier où grands et petits dorment tous d'un sommeil profond. Les ombres, alors, sortent de leur cachette et le monde leur appartient. Le rayon de lune brillait plus que jamais sur l'oreiller de Sophie et elle décida de sortir du lit pour aller mieux fermer les rideaux. Quiconque se faisait prendre hors de son lit après l'extinction des lumières était aussitôt puni. Mais en cet instant, il n'y avait personne pour la voir. Sophie en était sûre. Elle tendit le bras pour attraper ses lunettes posées sur une chaise à côté du lit. Leur verre épais était enserré dans une monture d'acier et Sophie n'y voyait quasiment rien lorsqu'elle ne les avait pas sur le nez. Elle les chaussa donc, puis se glissa hors du lit et marcha vers la fenêtre sur la pointe des pieds. Lorsqu'elle se trouva devant les rideaux, Sophie hésita. Elle avait très envie de passer dessous et de se pencher par la fenêtre pour voir à quoi ressemblait le monde à l'heure des ombres. Elle tendit l'oreille une nouvelle fois. Tout était parfaitement silencieux. L'envie de regarder au dehors devint si forte qu'elle ne put y résister. Un instant plus tard, elle avait disparu sous les rideaux et se penchait à la fenêtre. Sophie aperçut en face la boutique de Madame Rance où l'on pouvait acheter des boutons, de la laine et des élastiques. Sophie laissa errer son regard un peu plus loin dans la rue, puis de plus en plus loin. Et soudain, elle se figea. Quelque chose remontait la rue sur le trottoir opposé, quelque chose de tout noir et de tout grand, de tout noir, de tout grand et de tout mince. Cela n'avait rien d'humain. Ce ne pouvait l'être. C'était 4 fois plus grand que le plus grand des hommes. C'était si grand que sa tête dominait les plus hautes fenêtres des maisons. Sophie ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son n'en sortit. Sa gorge, comme tout le reste de son corps, était paralysé par la peur. C'était, à n'en pas douter, l'heure des ombres. La grande silhouette mince allait son chemin. Elle marchait en rasant les façades de l'autre côté de la rue et en se cachant dans les recoins sombres, à l'abri du clair de lune. Elle s'approchait de plus en plus près, en s'avançant par à-coups. Elle s'arrêtait, puis repartait, puis s'arrêtait encore. Que pouvait-elle bien faire? Ah, mais oui. Sophie comprenait à présent son manège. La silhouette s'arrêtait devant chaque maison. Elle s'arrêtait et jetait un coup d'œil par les fenêtres du dernier étage. À la vérité, il lui fallait se pencher pour pouvoir coller l'œil au carreau. C'est dire à quel point elle était grande. Elle s'arrêtait et regardait à l'intérieur. Puis, elle se glissait jusqu'à la prochaine maison, s'arrêtait de nouveau, jetait de nouveau un coup d'œil par la fenêtre et ainsi tout au long de la rue. La silhouette était maintenant beaucoup plus proche et Sophie la distinguait plus nettement. En l'observant avec attention, elle finit par conclure qu'il devait s'agir d'une sorte de personne. De toute évidence, ce n'était pas un être humain, mais sans nul doute, c'était une personne. Et une grande personne. Ou plutôt, une personne géante. Sophie scruta avec insistance la rue embrumée que la lune éclairait. Le géant, si c'en était bien un, était vêtu d'une longue cape noire. Dans une main, il tenait ce qui semblait une très longue et très fine trompette. De l'autre main, il portait une grande valise. Le géant s'était à présent arrêté devant la maison de Monsieur et Madame Goucher. Les Goucher possédait un commerce de primeur situé au centre de la Grand-Rue et toute la famille vivait au-dessus de la boutique. Sophie savait que les deux enfants gauchers avaient une chambre au premier étage qui donnait sur la rue. L'œil collé à la fenêtre, le géant regardait à l'intérieur de la pièce où dormaient Michael et Jane Goucher. De l'autre côté de la rue, Sophie l'observait en retenant son souffle. Elle vit le géant faire un pas en arrière et poser sa valise sur le trottoir. Il se pencha, l'ouvrit et y prit quelque chose qui ressemblait à un bocal. Un de ces bocaux carrés, muni d'un couvercle rond. Il dévissa le couvercle et versa le contenu du bocal dans sa longue trompette. Sophie s'était mise à trembler en le regardant faire. Elle vit le géant se redresser, puis glisser le pavillon de la trompette par la fenêtre ouverte de la pièce où dormaient les enfants gauchers. Le géant prit alors une profonde inspiration et... il souffla dans sa trompette. Il n'en sortit aucun bruit. Mais il était clair qu'à présent, le contenu du bocal avait été projeté par la trompette dans la chambre des enfants gauchers. De quoi pouvait-il bien s'agir? Le géant retira sa trompette de la fenêtre et se pencha pour ramasser la valise. En même temps, il tourna la tête et jeta un coup d'œil de l'autre côté de la rue. Dans la clarté de la lune, Sophie aperçut l'espace d'un instant. Une énorme tête, longue, pâle et ridée, dotée d'oreilles gigantesques. Il avait un nez en lame de couteau et au-dessus, deux yeux brillants qui lançaient des éclairs, deux yeux dont le regard tomba droit sur Sophie. Et ce regard semblait féroce, diabolique. Sophie eut un haut-le-corps et s'éloigna de la fenêtre en reculant d'un bond. Puis, elle traversa en courant le dortoir, sauta dans son lit et se cacha sous la couverture. Là, tremblant de tous ses membres, elle se recroquevilla et resta sans bouger, comme une souris terrée dans son trou. Blottie sous la couverture, Sophie attendait. Elle laissa passer une minute environ. Puis, elle souleva un coin du drap et jeta un coup d'œil dans le dortoir. Pour la seconde fois cette nuit-là, son sang se glaça dans ses veines et elle voulut crier, mais il ne sortit aucun son de sa gorge. Là, à la fenêtre, il y avait l'énorme tête du géant, longue, pâle et ridée, encadrée par les rideaux qu'elle repoussait de chaque côté et ses yeux noirs, qui lançaient des éclairs, regardaient fixement le lit de Sophie. Un instant plus tard, une main immense, aux doigts pâles, apparut à la fenêtre et se glissa à l'intérieur comme un serpent. Elle était suivie d'un bras qui avait l'épaisseur d'un tronc d'arbre. Et tout ensemble, bras, mains et doigts s'avançaient vers le lit de Sophie. Cette fois, Sophie cria vraiment, mais pendant une seconde seulement, car aussitôt, la main immense s'abattit sur le lit et le cri fut étouffé sous la couverture. Sophie, ramassée sur elle-même, sentit la force des doigts qui se resserraient autour d'elle, puis la soulevait de son lit avec draps et couvertures, et en un clin d'œil, la main l'emporta au dehors, par la fenêtre. S'il vous est possible d'imaginer quelque chose de plus terrifiant survenant au beau milieu de la nuit, priez de me le faire savoir. Et le plus effroyable, c'est que Sophie savait exactement ce qui se passait. Bien qu'elle n'en pût rien voir, elle savait qu'un monstre, ou un géant, avec une énorme tête, longue, pâle et ridée, aux yeux menaçants, l'avait arrachée à son lit en pleine heure des ombres et l'emportait à présent au dehors, emmaillotée dans une couverture, après l'avoir fait passer par la fenêtre. Et voici ce qui arriva ensuite. Lorsqu'il l'eut sorti du dortoir, le géant emprisonna Sophie dans la couverture en rabattant les quatre coins et en les maintenant bien fermés entre ses doigts immenses. Puis, de l'autre main, il ramassa la trompette et la valise avant de déguerpir à toutes jambes. Sophie, en se tortillant dans la couverture, s'arrangea pour passer le nez à travers une petite fente laissée libre juste sous la main du géant et put ainsi jeter un regard alentour. De chaque côté, Elle vit défiler à toute allure les maisons du village. Le géant courait le long de la grand-rue, et il courait si vite que sa cape noire se déployait derrière lui comme les ailes d'un oiseau. Chacune de ses enjambées avait la longueur d'un court de tennis. Il courut ainsi hors du village et bientôt traversa les champs qui s'étendaient au clair de lune. Les haies qui servaient de clôture n'étaient pas pour lui un obstacle. Il les enjambait, tout simplement. Sur son chemin apparut une large rivière qu'il franchit d'un bond. Sophie était accroupie dans la couverture et regardait au dehors, ballottée contre la jambe du géant comme un sac de pommes de terre. Ils parcoururent d'autres champs, sautèrent d'autres haies et d'autres rivières, et au bout d'un moment, une pensée terrifiante traversa l'esprit de Sophie. « C'est la faim qui le fait courir si vite, se dit-elle. Il a hâte de rentrer chez lui pour me dévorer en guise de petit déjeuner. » Le géant courait et courait encore. Mais il s'était produit un curieux changement dans l'allure de sa course. Il semblait avoir soudain passé une vitesse supérieure. Il allait de plus en plus vite, à tel point que le paysage alentour devint flou. Le vent picotait les yeux de Sophie et lui faisait venir des larmes. Elle avait l'impression que les pieds du géant ne touchaient plus le sol. On aurait dit qu'il volait. Quant à savoir s'il parcourait la terre ou la mer, c'était impossible. Il y avait quelque chose de magique dans ses jambes. Le vent qui cinglait le visage de Sophie soufflait si fort à présent qu'elle dut se réfugier à l'intérieur de la couverture de peur que sa tête ne fût emportée. Était-il véritablement en train de traverser un océan ? Sophie, en tout cas, en avait la sensation. Elle se pelotonna dans la couverture et écouta siffler le vent. Il lui sembla que le voyage dura des heures. Puis, tout à coup, le vent cessa de mugir. Le pas du géant ralentit et Sophie sentit ses pieds se poser à nouveau sur la terre ferme. Elle passa la tête par la fente pour jeter un coup d'œil. Il se trouvait maintenant dans un paysage de forêts touffues et de rivières bouillonnantes. Le géant avait bel et bien modéré son allure. Il franchit une douzaine de rivières, bondissant à chaque fois d'une berge à l'autre, parcourut à la hâte une vaste forêt, puis descendit dans une vallée, remonta sur une chaîne de collines, nue comme le ciment, et s'élança au travers d'une terre désolée qui semblait d'un autre monde. Le sol en était plat, d'une couleur jaune pâle. De gros blocs de roches bleues étaient dispersés, çà et là, et des arbres morts se dressaient un peu partout, tels des squelettes. La lune avait disparu depuis longtemps, et c'était maintenant l'aube qui pointait. Sophie, qui continuait de regarder par la fente de la couverture, vit soudain devant elle une haute montagne escarpée. Le géant fit halte au pied de la montagne. Il resta ainsi immobile pour reprendre haleine. Juste devant eux, appuyée contre le flanc de la montagne, Sophie apercevait une pierre ronde et massive. Elle avait la taille d'une maison. Le géant tendit le bras et roula la pierre de côté, aussi facilement que s'il s'était agi d'un ballon de football, découvrant ainsi un énorme trou noir. Il avança d'un pas dans les ténèbres, portant toujours Sophie d'une main et de l'autre sa trompette et sa valise. Dès qu'il fut à l'intérieur, il se retourna et roula la pierre dans l'autre sens pour la remettre en place. L'entrée de sa caverne était ainsi complètement invisible du dehors. Et maintenant que l'ouverture était bouchée, il n'y avait plus le moindre rayon de lumière dans la grotte. Tout était noir. Sophie sentit qu'on la descendait vers le sol. Le géant, en effet, déposa la couverture par terre et en lâcha les coins. Puis, ses pas s'éloignèrent et la fillette, tremblante de peur, resta assise dans l'obscurité. « Il s'apprête à me manger, » pensa-t-elle. « Il va probablement me dévorer toute crue. Ou peut-être
Me fera-t-il bouillir ou frire? Il va me jeter comme une tranche de lard dans quelque gigantesque poêle pleine de beurre grésillant.
Un torrent de lumière illumina soudain l'endroit. Sophie cligna les yeux et regarda autour d'elle. Elle vit une haute et immense caverne au plafond de roc. De chaque côté, des rayonnages recouvraient les murs et portaient des rangées de bocaux de verre disposés les unes au-dessus des autres. Il y avait partout des bocaux. On les voyait empilés dans chaque coin et recoin, et il n'était pas dans toute la caverne un seul endroit qui n'en fût encombré. Au beau milieu, trônait une table haute de 4 mètres et une chaise en proportion. Le géant ôta sa cape noire et la pendit au mur. Sophie remarqua qu'il portait sous la cape une sorte de chemise sans col, ainsi qu'un vieux gilet de cuir sale qui semblait entièrement dépourvu de boutons. Il avait également un pantalon d'une couleur vert délavé, beaucoup trop court pour ses jambes. Ses pieds nus étaient chaussés d'une paire de sandales ridicules, percées de trous sur les côtés, avec à chaque bout un trou plus grand par lequel dépassaient ses orteils. Sophie, vêtue de sa chemise de nuit, se tenait accroupie sur le sol de la caverne et observait le géant à travers ses épaisses lunettes à monture d'acier. Elle tremblait comme une feuille en plein vent, avec l'impression qu'un doigt glacé lui parcourait l'échine de haut en bas.
Ah ! Voyons un peu ce qu'on a rapporté là, nous autres.
Et sa voix tonitruante résonnait dans la caverne en roulant comme un tonnerre. Le géant ramassa d'une main Sophie qui ne cessait de trembler et l'emmena au milieu de la caverne pour la poser sur la table. Cette fois, ça y est. Il va me dévorer pour de bon, pensa Sophie. Le géant s'assit sur la chaise et la regarda avec insistance. Ses oreilles étaient vraiment démesurées. Chacune avait la taille d'une roue de camion et il avait le pouvoir de les remuer à sa guise en les écartant de sa tête ou en les rabattant en arrière.
« Moi, j'ai faim !»
gronda le géant. Puis il se mit à sourire en découvrant d'immenses dents carrées. Elles étaient très carrées et très blanches et semblaient plantées dans ses mâchoires comme d'énormes tranches de pain de mie.
S'il vous plaît, ne me mangez pas, bredouilla Sophie.
Le géant éclata d'un rire retentissant.
Alors, parce que moi, c'est un géant, tu crois que c'est un gobeur d'homme cannibale ?
S'exclama-t-il.
Tu as raison, les géants, c'est tout cannibalaire et patibule. C'est vrai, ils mangent des hommes de terre. Et ici, on est au pays des géants. Les géants, ils sont partout. Là-bas, dehors, il y a le célèbre géant croqueur d'os. Le géant croqueur d'os croque chaque soir pour son souper 2 hommes de terre frits. Avec un bruit à faire éclater les oreilles. Le bruit des os croqués qui crissent et craquent à des kilomètres à la ronde.
Aïe, 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 s'écria Sophie.
Le géant croqueur d'os ne mange que des hommes de terre suisses. Chaque nuit, le croqueur d'os s'en va galoper chez les Suisses pour ramasser des vaudois. Rien que des vaudois.
Cette révélation choqua si fortement le patriotisme de Sophie qu'elle en éprouva une vive colère. Et pourquoi des vaudois ? Qu'a-t-il donc contre les Anglais, celui-là ?
Le croqueur d'os dit que les vaudois sont bien plus juteux, beaucoup plus savouricieux. Le croqueur d'os dit que dans le canton de Vaud, les hommes de terre ont un goût délectable. Un goût d'escalope.
Ça me paraît logique.
Bien sûr que c'est logique. Chaque homme de terre est sanglier et différent.
Sanglier ?
Sanglier ou singulier, peu importe. Tous les hommes de terre sont différents. Certains sont délexquis savouricieux, d'autres sont ignominables. Les Grecs, par exemple, sont tout à fait exécrignables. Les géants ne mangent jamais de Grecs.
Et pourquoi cela ?
Les Grecs de Grèce ont un goût de gras.
C'est bien possible, admit Sophie. En même temps, elle se demanda avec un frisson où cette conversation allait bien pouvoir mener. Mais de toute façon, il fallait qu'elle continue à badiner avec ce drôle de géant et qu'elle s'efforce de rire à ses plaisanteries. S'agissait-il Cependant, de plaisanterie. Peut-être qu'en racontant ces histoires de mangeaille, cette grande brute était tout simplement en train de se mettre en appétit.
Vous aimez les légumes ?
Demanda Sophie, qui espérait ainsi orienter la conversation vers une sorte de nourriture un peu moins dangereuse.
Tu essayes de changer de sujet. Nous étions lancés dans un intéressant bavardinage sur le goût des hommes de terre, et les hommes de terre ne sont pas des légumes.
Pourtant, les pommes de terre sont des légumes.
Mais pas les hommes de terre. Les hommes de terre ont deux jambes, et un légume n'a pas de jambes du tout.
Sophie cessa de discuter. Elle ne voulait surtout pas risquer de mettre le géant en colère.
Les hommes de terre ont des mille millions de goûts différents. Par exemple, en autruche, ils ont bigrement le goût d'oiseau. Il y a quelque chose de très volatile en autruche.
Vous voulez dire en Autriche, rectifia Sophie. L'autruche n'a rien à voir avec l'autruche.
L'autruche, c'est l'autruche. Ne blablatifole pas avec les mots. Je te donne un autre exemple. Les hommes de terre des îles Shetland ont un détestable goût de laine qui râpe la langue. On a l'impression de mâcher des bulles en verre.
Oh, vous voulez dire des bulles en verre, rectifia de nouveau Sophie.
Et voilà que tu recommences à blablatifoler. Ça suffit maintenant.
Sophie estima que cette conversation avait assez duré. Si elle devait être mangée, mieux valait en finir une bonne fois plutôt que de laisser ainsi les choses traîner en longueur. Et vous ? Quelle sorte d'êtres humains mangez-vous ? Demanda-t-elle avec appréhension.
Moi ? Moi me nourrir d'hommes de terre ? Ça, moi, jamais ! Les autres, oui ! Tous les autres en dévorent chaque nuit, mais pas moi ! Moi, c'est un géant farfelu, un gentil géant tout confus. Je suis le seul gentil géant tout confus au pays des géants. Je suis le seul bon gros géant. Je suis le BGG. Et toi, quel est ton nom ?
Je m'appelle Sophie, dit Sophie, en osant à peine croire à l'excellente nouvelle qu'elle venait d'entendre.
Mais puisque vous êtes si bon et si gentil, pourquoi êtes-vous venu me prendre dans mon lit pour m'emmener chez vous ? S'étonna Sophie.
Parce que tu m'as vu. Et quiconque voit un géant doit être emmené illico presti.
Pourquoi cela ?
Tout d'abord, les hommes de terre ne croient pas vraiment aux géants. Ils ne pensent pas que nous existons.
Moi, j'y crois.
Oh, mais ça, c'est seulement parce que tu m'as vu. Et je ne peux pas permettre à qui que ce soit, même à une petite fille, de me voir et de rester ensuite à la maison. La première chose que tu ferais, tu irais gambadiller alentour en t'égosillant à qui mieux. J'ai vu un géant ! J'ai vu un géant ! Et après, il y aura une grande chasse aux géants, une énorme battue.
Alors, que va-t-il m'arriver maintenant ?
Si tu t'en retournes, tu préviendras le monde dans les télé blabla de la boîte à fadaises et chez les radio-rapporteurs. Il faudra donc que tu restes ici, jusqu'à la fin de tes jours.
Oh non !
Oh si ! Et je te préviens, il s'agit de ne pas aller te promener sans moi hors de cette caverne. Sinon, tu finiras en hachis charpie. Je vais te montrer qui va te manger si tu laisses apercevoir le bis du bout de ton nez.
Le bon gros géant souleva Sophie de la table et l'emmena jusqu'à l'entrée de la caverne. Il roula de côté l'énorme pierre, puis...
Jette donc un coup d'œil là dehors, petite fille, et raconte-moi ce que tu vois.
Sophie, assise sur la main du BGG, regarda à l'extérieur de la caverne. Le soleil était haut à présent et il écrasait sous sa fournaise la vaste étendue jaunâtre et désolée avec ses blocs de roches bleues et ses arbres morts.
Tu les vois ?
Sophie cligna ses yeux éblouis par le soleil et aperçut bientôt plusieurs silhouettes d'une taille fantastique qui déambulaient parmi les rochers à 500 mètres de là. Trois ou quatre autres silhouettes étaient assises immobiles sur les rocs mêmes.
C'est le pays des géants. Et tous ceux-là sont des géants, chacun d'eux.
C'était une vision ahurissante. Les géants n'avaient pour seul vêtement qu'une sorte de jupe courte, nouée autour des hanches, et leur peau était brûlée par le soleil. Mais c'était surtout leur taille qui semblait stupéfiante. Ils étaient tout simplement colossaux, beaucoup plus hauts et larges que le bon gros géant sur la main duquel Sophie était toujours assise. Et ils étaient si laids. Nombre d'entre eux avaient des gros ventres. Et tous avaient de longs bras et de grands pieds. Ils se trouvaient trop loin pour qu'on pût distinguer les traits de leur visage, mais cela valait mieux, sans doute.
Que font-ils donc là ? Demanda Sophie.
Rien. Ils traînaillent et flanouillent en attendant la nuit. Alors ils s'en iront galoper dans des pays où il y a des gens, pour y chercher de quoi souper.
Vous voulez dire en Suisse, chez les Vaudois?
Le géant croqueur d'os s'en ira galoper en Suisse, bien sûr, mais les autres fileront vers toutes sortes d'endroits au diable l'envers, comme Wellington, pour y goûter des généraux, ou Panama pour le goût de chapeau. Chaque géant a son terrain de chasse favori.
Est-ce qu'ils vont parfois en Angleterre?
Souvent. Ils disent que les Anglais ont un merveilleux goût de poudingue.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que cela signifie.
La signification n'a pas d'importance. On ne peut pas toujours parler clairement. Très souvent, mes phrases ne sont pas du tout à droite. Elles sont même très à gauche.
Et tous ces monstres là-bas vont vraiment aller manger des gens cette nuit?
Toutes les nuits, ils se goinfrent d'hommes de terre. Tous, sauf moi. C'est pour ça que tu finirais en hachis charpie si jamais l'un d'eux posait ses mirettes sur toi. Il t'engloufrirait d'une seule bouchée comme une crème chantelilée.
Mais c'est horrible de manger des gens. C'est terrifiant. Comment se fait-il que personne ne les en empêche?
Et qui donc irait les en empêcher, s'il te plaît?
Vous, par exemple.
Oh, autant siffler dans un cochon. Tous ces géants mangeurs d'hommes sont immenses et très féroces. Ils sont au moins deux fois plus larges que moi et mesurent le double de ma royale grandeur.
Deux fois plus grand que vous?
Facilement. Tu les vois de loin, mais attendons de les observer de plus près. Tous ces géants font au moins 15 mètres de haut, avec des muscles énormes, et les quinquets aux aguets. Moi, c'est le rikiki à côté. C'est moi, le nabo. 7 mètres 20 au pays des géants, c'est de la toupie de Sansonnet.
Il ne faut pas en avoir honte. Moi, je vous trouve très bien. Je parie que vos orteils sont grands comme des saucisses.
Plus grands encore. Ils sont grands comme des concombres.
Combien y a-t-il de géants?
9 en tout.
Cela signifie que chaque nuit, il y a quelque part dans le monde 9 malheureux qui se font enlever et dévorer vivants?
Plus! Tout dépend de la taille des hommes de terre. Les hommes de terre japonais, par exemple, sont tout petits. Et un géant doit avaler environ 6 japonais avant d'être rassasié. D'autres, comme les Norvégiens ou les amers requins, sont beaucoup plus grands. Et généralement, 2 ou 3 d'entre eux font un bon casse-croûte.
Et ces affreux géants vont dans tous les pays du monde?
Tous les pays, sauf la Grèce, ont droit à leur visite un jour ou l'autre. Un géant choisit un pays selon ses envies du moment. Si c'est la canicule et qu'il a aussi chaud qu'une noix de beurre dans une poêle à frire, il ira probablement galoper dans le Grand Nord frisquet pour y chercher 1 ou 2 esquimaux bien glacés qui le rafraîchiront. Mais s'il gèle à faire pendre et que le géant est frigidifié, il ira sans doute pointer son nez chez les hommes de terre chaude pour s'y faire une bonne purée.
C'est parfaitement répugnant.
Il n'y a rien de meilleur qu'une bonne purée d'hommes de terre chaude pour réchauffer un géant froid.
Et si vous me déposiez sur le sol et que j'aille me promener parmi eux, est-ce qu'ils me mangeraient vraiment?
Ils t'avaleraient plus vite qu'un courant d'air.
Oh,
tu es si petite qu'ils n'auraient même pas besoin de te mâcher. Le premier qui te verrait te ramasserait entre deux doigts et tu disparaîtrais dans son gosier comme une goutte de pluie.
Retournons donc à l'intérieur, dit alors Sophie. Rien que de les voir. J'en suis malade. Lorsqu'ils furent rentrés dans la caverne, le bon gros géant posa de nouveau Sophie sur l'immense table.
Tu es sûre d'avoir bien chaud dans ta chemisette? Tu n'es pas trop frisquette?
Je me sens très bien.
Je ne peux pas m'empêcher de penser à tes pauvres parents. À l'heure qu'il est, ils doivent être à trétiner et tropigner de large en long dans toute la maison, en criant « Ohé, ohé, où est Sophie ?»
Je n'ai pas de parents. Ils sont morts tous les deux quand j'étais encore bébé.
Oh, oh, pauvre petite mouflette. Et ils te manquent beaucoup?
Pas vraiment. Je ne les ai jamais connus.
Tu me rends tout triste.
Ne soyez pas triste. Personne ne se fera beaucoup de soucis pour moi. La maison d'où vous m'avez enlevée, c'est l'orphelinat du village. Il n'y a là que des orphelins.
Tu es une orpheline?
Oui.
Et combien y en avait-il avec toi?
Nous étions 10, rien que des petites filles.
Tu étais heureuse là-dedans?
Oh non, j'avais horreur de cet endroit. La directrice s'appelait Madame Clonkers. Et si jamais elle nous prenait à faire quelque chose d'interdit, comme de se lever la nuit ou d'oublier de plier ses affaires, elle nous punissait.
Qu'est-ce qu'elle vous donnait comme punition?
Elle nous enfermait dans une cave toute noire, pendant 1 jour et 1 nuit, sans nous donner ni à manger ni à boire.
Oh! Oh, l'effroyable vieille scrofule!
C'était horrible. Nous étions terrifiés. Il y avait des rats là-dedans. On les entendait trottiner partout.
La répugnante vieille tournebule. C'est la chose la plus abominable que j'ai entendue depuis des années. Oh, ça me rend plus triste que jamais.
Tout aussitôt, une énorme larme, qui eût suffi à remplir un seau, roula sur la joue du BGG et tomba avec un grand floc en faisant une grosse flaque.
Sophie contempla le géant avec étonnement. « Voici un être bien étrange et bien imprévisible, » pensa-t-elle. « Tantôt, il me dit que j'ai de la purée de mouche dans le crâne, et l'instant d'après, il a le cœur brisé quand je lui raconte que Madame Clonkers nous enfermait dans la cave.
« Ce qui me chagrine, moi, » reprit Sophie, « c'est d'avoir à rester dans cet endroit épouvantable jusqu'à la fin de mes jours. L'orphelinat était tout à fait détestable, mais au moins, je n'y aurais pas passé toute ma vie. »
« Tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai kidnappé. »
Et une autre larme, tout aussi énorme, jaillit à nouveau de son œil, puis s'écrasa bruyamment sur le sol. Pourtant, plus j'y pense et plus je me dis que je ne resterai pas si longtemps que ça.
Et bien peur que si.
Non, car ces brutes finiront bien par m'attraper un jour ou l'autre. Et je leur servirai alors de goûter.
Jamais je ne permettrai une chose pareille.
Il y eut quelques instants de silence dans la caverne. Enfin, Sophie reprit la parole. Puis-je vous poser une question ? Le BGG essuya ses larmes d'un revers de main et posa sur Sophie un long regard pensif.
Vas-y.
Voulez-vous me dire ce que vous faisiez dans notre village la nuit dernière ? Pourquoi avez-vous glissé cette longue trompette par la fenêtre des enfants gouchés pour ensuite souffler dedans ?
Ah ! Voilà qu'on devient plus curieux qu'une fouine !
Et la valise que vous portiez, à quoi tout cela pouvait-il bien rimer ? Le BGG fixa d'un regard soupçonneux la petite fille assise en tailleur sur la table.
« Tu me demandes de te révéler de bougrement grands secrets, des secrets dont jamais personne n'a entendu parler. »«
Je n'en parlerai jamais, moi non plus, je le jure. D'ailleurs, comment le pourrais-je ? Je suis coincée ici pour le reste de mes jours. »«
Tu pourrais en parler aux autres géants ?»«
Certainement pas. Vous m'avez prévenu qu'ils me mangeraient si jamais ils me voient. » Alors pourquoi dites-vous que je pourrais parler ?
La vérité, c'est que je suis plein de bavardouillage. Et si tu écoutes tout ce que je raconte, tu en auras bientôt mal aux oreilles.
S'il vous plaît, dites-moi ce que vous faisiez dans notre village. Je vous promets que vous pouvez me faire confiance.
Est-ce que tu m'apprendras à fabriquer un éléphant ?
Que voulez-vous dire ?
J'aimerais tellement avoir un éléphant pour me promener dessus. Un bon beau babar d'éléphant pour aller dans la forêt cueillir des gros fruits juteux aux branches des arbres. Oh, j'y passerai toutes mes journées. Ici, on cuit dans ce bougre de pays tout craquelé de chaleur. Il n'y pousse rien à part des chenocombres. J'aimerais bien aller ailleurs et cueillir des gros fruits juteux assis sur le dos d'un éléphant le matin de bonne heure.
Sophie se sentit émue en entendant parler ainsi. Peut-être qu'un jour, nous vous trouverons un éléphant et de gros fruits juteux également. Mais à présent, dites-moi ce que vous faisiez dans notre village.
Si tu veux vraiment savoir ce que je fais dans ton village, eh bien voilà, je souffle des rêves dans les chambres des enfants.
Vous soufflez des rêves ? Que voulez-vous dire ?
Je suis un géant souffleur de rêves. Quand tous les autres géants s'en vont galoper sur les chemins pour avaler des hommes de terre, moi, je cours souffler des rêves dans les chambres des enfants qui dorment. De beaux rêves, de jolis rêves dorés. Des rêves qui les rendent heureux.
Mais où allez-vous les chercher, ces rêves ?
Je les attrape. J'en ai des milliers.
C'est impossible d'attraper un rêve. Un rêve, ce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir.
Tu ne comprendras jamais rien à ça. C'est pourquoi je ne peux pas t'en parler.
Oh si, dites-moi. Je comprendrai. Allez-y, dites-moi. Comment vous faites pour attraper des rêves ? Racontez-moi tout.
Le BGG s'installa confortablement sur sa chaise et croisa les jambes.
Les rêves sont des choses très mystérieuses. Ils flottent dans l'air comme de petites bulles fines et floues, en cherchant sans cesse des gens qui dorment.
Peut-on les voir ?
Jamais, jamais du premier coup.
Dans ce cas, comment faites-vous pour les attraper s'ils sont invisibles ?
Ah, c'est maintenant qu'on en arrive au sombre secret bien caché.
Je promets que je ne dirai rien.
Je te crois.
Il ferma alors les yeux et resta immobile un instant, tandis que Sophie était suspendue à ses lèvres.
Les rêves, lorsqu'ils filent dans l'air de la nuit, émettent de tout petits bourdonnements. Mais ces petits bourdonnements sont si légers que les hommes de terre ne peuvent pas les entendre.
Et vous, vous les entendez ? Le BGG montra du doigt ses énormes oreilles en forme de roue de camion et il se mit à les remuer d'avant en arrière. Il était très fier de se livrer à ce petit exercice et son visage s'éclaira d'un sourire satisfait.